Bon, merci beaucoup pour cette intervention. Alors, je voulais tout simplement poser une question à chacun. Il y a pris la parole à la salle. Effectivement, il y a beaucoup de points d'écrasement. Alissant les textes, j'ai pensé à, justement à ce qu'est Anastasia et ses allusions. Le collectif n'est rien que le sujet de l'individuel. Et la, dans une phrase qu'on a reprise plusieurs fois, de rejoindre à son horizon la subjectivité de son époque. Je pense que dans les phrases exposées, il y a ces questions justement de comment cette subjectivité, finalement, les nouveaux symptômes, aucun des trois a vraiment parlé de ces symptômes dont on pourrait croire qu'on aurait pu parler des symptômes de l'époque. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que vous avez mis l'accent sur la question de ces symptômes qui passent par les discours analytiques. Donc, et pour Anastasia, justement, qui a commencé, qui nous en a montré très bien comment, à l'époque de Freud, il y avait la morale sexuelle et comment les symptômes faisaient en quelque sorte barrage à ces morales sexuelles, mais Lacan, après, en 78, la libération de la sexualité, la sexomanie que tu évoques, produit aussi un symptôme. Donc finalement, ce n'est pas une question d'époque, c'est-à-dire la question du symptôme qui intéresse à la psychanalyse. C'est un symptôme qui, il y a un symptôme particulier, donc que tu fais référence, mais les produits des discours analytiques, ça serait un symptôme singulier. Mais pour arriver à ces symptômes singuliers, donc tu fais la différence, est-ce que tu pourrais, justement, tu parles des serrés, des singuliers, est-ce que par rapport à ces serrés, des singuliers, donc tu aussi fais un peu de la critique en disant que ça sert les singuliers, mais ça ne fait pas un point final, comme un peu ce que Nadine propose, mais est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus ces passages à tes symptômes particuliers et symptômes singuliers et ces serrés, les singuliers que tu irais reprendre des Lacan. Pour Nadine, alors, Nadine, toi, il me semble que dans ton exposé, c'est centré aussi, comme Louise l'a dit, autour de ces repérages, c'est la citation de Lacan, la psychanalyse, c'est les repérages d'un signifiant qui a marqué un point du corps. Je pense que là, il y a les deux exposés qui se rejoignent. Et là, tu fais justement référence à la difficulté dans ta pratique institutionnelle et comment les enfants hautement perturbateurs, et tu fais pas référence à la prévention, la guerre des boutons, et ces focussions de l'enfance. Et toi, tu pourrais dire un peu plus par rapport à tout ce que tu as élaboré ensuite, par rapport à ces points. Toi qui fais lien entre la parole et les corps, comment est-ce que tu t'es débrouillé dans l'institution pour justement retrouver peut-être ces points ou pas? Est-ce que c'est possible de produire quelque chose du transfert malgré tous les discours de l'époque effectivement qui va contre ces symptômes singuliers? Ça serait une première précision. Et à peut-être dire aussi un peu plus par rapport à ton exposé, parce que comment est-ce que tu définirais la névrose? Alors, parce que tu es revenu sur la question des torts de la névrose, mais quand j'ai revu ton texte, tu ne fais pas une définition proprement de la névrose. Ça reste un peu comme une question, en quelque sorte. Et c'est finalement aussi ce que lui se propose. Alors, Lise, effectivement, il y a beaucoup de points. J'ai retrouvé 6 définitions de névrose que tu donnes tout autour de ton exposé. Donc, la névrose comme question, une névrose comme évitement de la castration, une névrose comme question, une névrose comme repérage d'un signifiant qui marque les corps, une névrose comme hypothèse, et tu finis justement par prend ces questions de la névrose qui passe par la phobie. Et là, je voudrais que tu puisses nous dire un peu plus sur un point précis, parce que tu parlais de la solution avant l'angoisse. C'est cet angle avant, parce que tu fais tous les développements après sur la phobie et la citation du séminaire 10. Et pourquoi ces solutions d'avant? Voilà, on est au temporel, et que tu fais un lien, la différence entre les symptômes purs et les symptômes fondamentaux. Donc, okay, bon, ça m'intéresse que tu puisses dire un peu plus pour éclairer la question. C'était très instable.
C'est réel et singulier, c'est ça la question. Alors oui, enfin, effectivement, Freud parlait de symptômes culturels, sociaux, Lacan aussi d'une certaine manière, en fait. Et ces symptômes-là deviennent un peu autre chose dans le discours analytique, dans la rencontre avec un analyste. Les singuliers, je dirais que c'est l'actualité du transfert qui lui donne forme. C'est l'analyste pris dans le symptôme du sujet de l'analysant. Et c'est ça qui va faire que le symptôme ne sera plus le symptôme. Une sorte de simulacre, finalement, si on suit Freud, et aussi Lacan, et qui va devenir un symptôme qui est le symptôme singulier du sujet avec lequel il fait, il doit faire. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est l'actualité du transfert qui va former le singulier.
Oui, c'est là où tu rejoins Luis quand tu dis que justement c'est ça, la névrose n'existe pas pour la psychanalyse et par l'effet de la rencontre avec l'analyste.
Oui.
D'accord, c'est ça. Ok, d'accord.
Mais le fait que l'analyste est pris dans ses symptômes.
Dans les symptômes, ok. D'accord.
C'est d'ailleurs que Lacan est. On comprend aussi pourquoi Lacan critique le contre transfert.
Mm-hmm. Oui, vous faites que l'analyste dans le contre transfert n'est pas pris dans les symptômes. D'accord.
Il y a plusieurs questions. C'est vrai que j'ai illustré. Disons les manifestations du symptôme, je trouvais ça intéressant d'illustrer au plus tard dans l'enfance, pour montrer comment les professionnels de l'enfance s'emparent justement de tous les discours. Et donc, depuis, c'est vrai, 2-3 ans, il y a quelque chose qui se resserre à l'école, et les enseignants sont eux-mêmes plus, ont l'œil sur ce qui pourrait se passer, hein, qui pourrait déborder de l'enfance, et en même temps, ils sont pressés par le système lui-même. Donc, il y a un double effet. Hein. Alors, c'est vrai que, peut-être j'en ai parlé, c'est une façon de dire comment je m'en débrouille, hein, puisque tu m'as demandé comment faire. C'est vrai que j'ai été... Pendant 2-3 ans, je pense que j'ai été ébranlée par l'effet du discours sur les enfants. Donc j'avais je m'énervais plus, je ne savais pas comment entrer, je ne savais pas comment dire quand un enfant avait une petite crise. Des fois, même des écoles, on a appelé les pompiers pour un enfant qui faisait une petite crise, un enfant de 4 ans. On a appelé les pompiers 3 fois, tellement les enseignants avaient peur. Alors bon, demain, il y avait une petite crise, il fallait un peu de... l'arrêter, mais c'était... Donc il y avait des urgences, ça flambait partout et je ne savais pas comment répondre. Et je pense que aujourd'hui, ce que je trouve le plus juste, c'est que j'étais trop raide, c'est-à-dire trop fixée, style c'est la psychanalyse, voilà, j'avais une position un petit peu trop raide. Et donc, j'ai essayé de traiter ça plutôt. Je me suis un peu assouplie, hein, pour écouter ce qui se disait à travers elle, plutôt de travailler avec aussi l'institution, être plus auprès des gens. Enfin, j'ai toujours été auprès des gens, mais moins critiquer ce qu'ils disaient. Donc, plutôt un peu prendre avec, m'assoupir, utiliser les signifiants autour pour pouvoir moi-même proposer d'autres choses. Voilà, de parler un peu plus de l'enfance, qu'est-ce que c'était l'enfance. Des fois, ben, il y avait des petites crises qu'il fallait prendre son temps. Enfin, plutôt quelque chose autour de la temporalité pour un peu contrer l'accélération. Et aussi, si j'ai évoqué les enfants, c'est que ce seront les adultes de demain. Et donc, on va avoir ces enfants pris par ces symptômes-là dans les cabinets dans quelques temps. Voilà, tout simplement. Et ce qui me frappe le plus, c'est... ça fait quand même longtemps que je travaille avec les enfants, mais depuis 2-3 ans, c'est comme s'il n'y avait plus d'enfance, quoi. Ça ne peut pas exister. C'est insupportable. Bon, c'est pas nouveau, mais là, c'est pressant. Et je crois que c'est vraiment lié à une radicalisation de tout, de la pulsion, du regard, des mots. Et puis la peur, surtout. La peur que ça revienne comme un danger à travers les enfants. Et, hein, on pourrait parler des enfants des djihadistes, on a peur de ce qui va pouvoir revenir. Hein, donc je crois que c'est d'actualité. Voilà, concernant, en effet, la névrose, c'est vrai que moi, au début, ce qui m'avait... J'étais tout de suite partie sur la forme, hein, et sur le point. C'est ça qui m'avait marqué. Je pensais tout de suite à ça. Et c'est vrai que la première soirée du séminaire école m'a fait réfléchir un peu sur la névrose. Mais c'est pas, disons que c'était pas ça le point premier de mon travail, c'était plutôt de prendre la forme la plus, d'entendre le symptôme comme le point d'un nouage qui se fait. C'est-à-dire que par rapport à ce que disait Anastasia, le symptôme qui se forme dans la cure aussi, quelque chose qui se modifie. Ce que je viendrais mettre en contrepoint, c'est aussi que quelque chose aussi est déjà joué dans la structure d'un sujet. Il y a quelque chose qui est là quand même, c'est pour ça que ça peut bouger jusqu'à un certain point de ce qui s'est déjà, ce qui se serait déjà joué. C'est voilà mon hypothèse. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu comme j'ai pu.
Oui, il y a beaucoup de questions dans ce que tu dis. Tu as repéré des points justes, importants. Quand j'évoque la névrose comme question, la névrose comme réponse, ça se trouve chez Lacan. Lacan, en général, on a extrait la névrose comme question, ce qui est juste parce que ça concerne pouvoir déduire dans le discours d'un obsessionnel la question portant sur être vivant ou pas, et dans le discours d'un sujet hystérique, la question portant sur les sexes. Mais en même temps, il dit la névrose, c'est une réponse, ce qui n'est pas contradictoire, c'est une question qui apparaît, mais sur la base d'une armature par rapport à l'inexistence d'un signifiant dans l'inconscient. Donc, faute d'un signifiant dans l'inconscient qui est général, donc forclusion généralisée. Disons, les solutions, parce que j'utilise le terme de solution, les solutions, c'est l'armature qui est faite pour compenser cette absence des signifiants. Donc il y a une armature obsessionnelle, hystérique, et la phobie, disons, au moment d'entrée. Donc la question de l'hypothèse, c'est pas une autre définition. La question de l'hypothèse, c'est... Bon, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est complexe, le diagnostic d'une névrose. Et que pour pouvoir affirmer la névrose, pour pouvoir être assuré de la structure névrotique, il faut beaucoup de temps. Ça ne veut pas c'est-à-dire que l'analyse ne commence pas tant qu'on n'a pas fait le diagnostic des névroses. C'est pour ça que je crois que l'idée de Lacan, c'est centrer la chose en termes d'opération. Il s'agit de quelle est l'opération. Alors, Anastasia, toi, tu évoquais la question du serré, le singulier. Est-ce qu'au fond, ça ne pourrait pas s'appliquer à tous les sujets? Serré, le singulier. Serré, le singulier, c'est au fond, au-delà du diagnostic névrose ou psychose, c'est justement pour chacun, il s'agit de serrer le singulier. Donc, après, on pourra avoir la confirmation, puisque. Si on dit, on prend la définition qui prend Nadine, que moi-même j'ai prise, le insignifiant qui marque le corps, c'est facile à dire. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire, insignifiant qui marque le corps? Il faut pouvoir déduire ça de toutes les élaborations qu'un sujet fait à propos de la névrose infantile. Et, mais pour arriver à ces points-là, il faut parfois très longtemps, hein, beaucoup de temps d'analyse.
Je voudrais juste rajouter, oui, ce repérage du plan du corps, il est du côté de l'analyse, mais il est du côté de l'analysant. C'est-à-dire que c'est aussi sur les propres repérages de l'analysant.
C'est le traumatisme.
Dans les deux cas, le repérage, il est des deux côtés. C'est-à-dire de l'analysant, surtout quand il a fait sa cure, ce qu'il repère lui, enfin, ce qu'il a cru repérer.
La question, c'est il s'agit uniquement de la névrose, c'est ça la question.
Oui, c'est ça.
Enfin, moi, je n'ai pas fait une. Je parlais de la névrose. Je parlais du serré, du singulier dans le processus analytique du névrose. Mais ça n'exclut pas, effectivement. Moi, je n'ai pas pensé, ça n'exclut pas qu'effectivement, dans la psychose, ça pousse. Ça peut s'entendre, c'est le serré, le singulier. Absolument.
Oui, à propos de questions ou réponses, est-ce qu'on ne peut pas plutôt dire que c'est le symptôme qui est toujours une réponse, mais que, d'une certaine façon, prenons plutôt le symptôme est toujours une réponse, mais d'une certaine façon, du côté de la névrose, il y a une question. Et il restera toujours une question ouverte, à savoir que sur l'origine de l'origine de l'origine, le fameux de l'histoire, il faut bien accepter qu'il n'y a pas de réponse. Alors que du côté de la psychose, il y a plutôt une certitude. Donc garder la névrose comme question, je trouve que c'est plutôt pertinent. Voilà.
Oui, est-ce qu'il y a lieu à distinguer réponse du symptôme ou la névrose comme réponse? Les symptômes font partie de la névrose. Donc, c'est la névrose est une réponse. C'est une réponse à l'inexistence. Il peut y avoir d'autres réponses. La réponse, il y a la psychose comme réponse et puis il y a la perversion comme réponse.
Oui, moi je voudrais renvoyer à Nadine sa question initiale. Nadine a commencé en disant qu'elle se posait la question, peut-on affirmer qu'il y a de nouvelles formes de symptômes? Alors je suis un peu fatiguée, peut-être que je n'ai pas bien suivi son exposé, mais je voudrais qu'elle, si elle l'a déjà dit, qu'elle reprenne. Quelle est donc la réponse à sa question? Sinon, à propos de ce que Nadine évoquait, de ce qui se passe en ce moment dans les écoles, Cela me fait penser à cette expression de Lacan dans le séminaire « Si mon souvenir est bon, le nom du Père ». Lacan annonce la venue d'un ordre social féroce. Vous vous souvenez, certains d'entre vous certainement se souviennent de cette leçon où il évoque les conséquences de ce qu'il appelle, si mon souvenir est bon, la dégénérescence, je cite de mémoire, du nom du Père. Et comme conséquence de cela, un ordre social féroce. Et je trouve que Nadine a très bien décrit une des formes que prend cet ordre social féroce dans ce qu'elle nous a dit de ce que vous nommiez un renfoulement, sinon une forclusion de l'enfance. Je trouve ça très très fort et répondant effectivement à ça. Et puis, donc, en liaison avec cette question, peut-on affirmer qu'il y a de nouvelles formes de symptômes ? Il me semble que la question était présente d'une manière ou d'une autre dans les trois exposés, avec une question portant sur une possible distinction entre les nouvelles formes socialement repérables, ce qui est beaucoup plus simple, mais la question demeure sur est-ce que ces nouvelles formes se répercutent et comment dans la cure. Et là-dessus, il me semblait que Anastasia suggérait que les nouvelles formes de symptômes, finalement, au style de l'analyse, on pourrait considérer que ce sont les symptômes singuliers de la fin de chacun. Hein. Donc, voilà un petit peu les questions que vous suggère pour l'intervention. Merci à tous les trois.
Concernant la réponse... Oui, ce que j'ai dit à la fin, c'est qu'il n'y a de forme nouvelle de symptômes que singulière. C'est-à-dire avec l'hypothèse, enfin, ce que j'ai compris dans ce que j'ai travaillé, c'est qu'au fond, le symptôme est une solution. Il n'y a qu'à la fois, c'est une question pour le sujet de ce qui lui arrive, mais c'est aussi une solution pour le sujet, si on prend le symptôme pas dans ses manifestations, mais dans ce qui tient pour le sujet.
Formation de compromis, disait le père.
Donc le symptôme en tant que réponse singulière, tout le reste n'est que, on pourrait dire, brodage lié au monde, à ce qui se passe, au discours. Enfin, c'est comme ça que je le pelure d'oignon, hein, on pourrait dire ça comme ça, sur ce que. Voilà, je. La réponse, c'est aller singulière, et après tout le reste, et notre lien, parce que nous sommes des parlants, donc on est en lien, donc ça fait partie aussi du symptôme. Enfin, c'est aussi là, la couverture du social et des liens.
C'est juste à vous, parce que il me semble qu'on. Enfin, là, il y a une confusion, parce qu'on ne distingue pas assez entre le symptôme et les symptômes. Alors, du coup, on se trouve un peu perdu. Parce que il y a ces symptômes, par exemple, là, avec les enfants, et puis il y a ce symptôme singulier. Qui est un produit, enfin, qui est un produit ou un reste des symptômes, enfin, le symptôme comme reste des symptômes, disons. Bon. C'est peut-être. Je veux dire, quand on parle du symptôme, on ne sait pas très bien si on parle d'un symptôme ou du symptôme comme auquel le sujet s'identifierait à la fin de la cure, selon Lacan.
C'est un peu un lien, on dit que donc tout de suite la parole. Et Martine après. Oui, c'est un peu un lien, mais c'est avec un Lacan, on fait la différence entre la subjectivité de l'époque et les sujets de l'inconscient. Et que la subjectivité, c'est tous les symptômes de l'époque. Mais finalement, quand il dit qu'il faut décroter, il faut décrocher les sujets de la subjectivité. Donc, c'est un peu sortir les symptômes singuliers des symptômes particuliers.
Oui, j'avais une question pour tous les trois par rapport, bon, alors, c'est par rapport au fantasme. Que fait-il du fantasme? Parce que c'est pas dans le titre de la soirée, mais on a l'impression à vous entendre, il y a lui ce qui m'a fait à dire quelque chose sur le ratage de l'identification au fantasme. Peut-être que ce serait à préciser, mais pour tous les trois, on parle de la, du symptôme singulier particulier, mais le fantasme ne disparaît pas, hein, enfin l'analyse. Que devient-il?
Je peux dire avant, moi j'ai parlé un peu fantasme parce qu'il me semble que tant que le sujet s'accommode de son fantasme, il n'y a pas l'analyse. Parce que tous les sujets qui méritent une analyse, la plupart, disons, sont les sujets pour lesquels il y a une accommodation. Ça marche. Lacan, il le dit très clairement. Et les sujets qui viennent sont ceux qui ne se contentent pas de leur fantasme. Donc c'est ça qui a fallu la dimension analytique. À un moment donné, le fantasme ne sert pas comme médiation. Alors la question de qu'est-ce qui devient de fantasme à la fin, on se contente de son symptôme à la fin.
Moi, j'ai pas du tout travaillé la question du fantasme, mais si en effet dans l'analyse il y a quelque chose qui touche à l'objet, il y a quelque chose du fantasme qui est un petit peu dévalué, il y a pas, il me semble. Le fantasme reste le fantasme, mais quelque chose est dévalué du fait de quelque chose qui fréquente l'objet, enfin, quelque chose qui touche à une rencontre avec la question de l'objet. Donc il y a peut-être quelque chose là qui se dévalue de son mordant, je veux dire, du mordant de la jouissance. Hein. Alors, voilà, faudrait voir comment ça s'articule après le symptôme avec le fantasme. Mais voilà, j'ai juste, ça me fait penser à ça. Voilà.
Non, c'est aussi une réponse, le fantasme.
Je voulais juste dire un truc par rapport à la remarque de soi. Je me demandais si un ordre social n'est toujours pas, n'est toujours féroce.
Les époques ne sont pas
les mêmes.
Là, on va vers le féroce. Donc, ça va très vite voir ça.
Non, c'est juste une toute petite question. Je suis embêtée parce que je ne me souviens plus le contexte. C'est à Louis. Il me semble que au début de ton intervention, tu as parlé de l'appel au réel. J'ai bien entendu.
Oui, oui, c'est une citation de Lacan.
Qu'est-ce que ça... Est-ce que tu peux redire?
Oui, c'est ça.
Oui, je me doute que ça a été dit, puisque...
Je l'ai utilisé parce que ça c'était dans la série du Ce n'est pas ça, donc c'est dans l'étourdi à la page 452, et Lacan dit ça, donc dans les autres écrits. Donc, la formulation, c'est vagissement de l'appel au réel, juste après avoir parlé du mur de l'impossible. Moi, je le comprends comme un moment de rencontre avec le mur de l'impossible, une disjonction qui s'opère pour le sujet, et l'appel au réel, c'est peut-être à considérer comme l'urgence du symptôme, peut-être, c'est l'hypothèse.
Merci.
c'est une question qui s'adresse à, peut-être à tous les trois. C'est quand il a été question de la rencontre entre les discours de l'époque et puis le symptôme singulier. Le discours de l'époque, il a toujours été traité comme dans son contenu positif, en fait. C'est-à-dire dans le contenu des normes positives qu'il prescrit. Par exemple, la morale sexuelle, ensuite la libération sexuelle, bien dans votre exposé des injonctions sécuritaires d'aujourd'hui. Et je me demandais ce que vous aviez à dire du discours comme forme, et pas seulement comme contenu positif. C'est-à-dire que ce qui caractérise aussi le discours d'une époque, c'est pas seulement les normes positives qu'il prescrit, mais c'est aussi une forme de discours. Et par exemple, aujourd'hui, il me semble que les sujets souffrent beaucoup du fait que le discours dans lequel on est pris, c'est un discours qui est complètement autoréférencié, qui pourrait peut-être caractériser le discours du capitaliste, qui est un discours qui parle pas du réel, en fait. Et dans l'école, par exemple, la présence du discours managérial dans l'école, qui est complètement déconnecté du rapport entre sujets qui se passent dans l'école, est très problématique, quoi. Donc je me demandais ce que vous aviez à dire de ces effets du discours, mais pris en tant que forme et non pas en tant que contenu sur les sujets.
Qu'est-ce que vous voulez dire par contenu positif ?
Pardon ?
Qu'est-ce que vous voulez dire par contenu positif ?
Par les normes qu'il prescrit. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez parlé de la morale sexuelle à l'époque de Freud, il y a un certain nombre de normes d'interdits qui sont des normes prescriptives contenues dans le discours. Plus tard, quand vous parlez de l'époque du moment de la libération sexuelle, c'est tout autant une norme positive, parce que c'est tout autant une injonction à la libération ou à la jouissance. Donc dans tous les cas, c'est des normes positives de normativation des conduites, des comportements, pas des sujets. Oui, c'est un contenu, c'est pas une forme. Et il y a autre chose dans le discours qui peut caractériser un discours, c'est pas son contenu, c'est sa forme, c'est la forme qu'il prend. Et aujourd'hui, on est pris dans un discours qui a une forme très particulière, quand même, qui est une forme totalement autoréférencée, qui parle plus du tout des sujets, en fait, qu'il est censé décrire. Et je me demandais si vous aviez quelque chose à dire dans votre pratique aussi, de cette rencontre, en fait, entre ce discours et puis les sujets.
Pour moi, le discours, c'est le signifiant que le discours peut écrire. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez parfois.
C'est pas ça du tout.
Le micro.
Non, le discours, pour moi, c'est le discours, le signifiant d'un discours véhicule. C'est ça. Et je pense que le sujet, c'est vrai, enfin, c'est signifiant là. Effectivement, les signifiants qu'on a aujourd'hui ne sont pas exactement les mêmes que 40 ans peut-être, ou les siècles de notre histoire.
C'est pas ça la question.
C'est pas ça, je crois qu'elle parle pas des signifiants, elle parle de la forme, c'est-à-dire
du discours du capitaliste.
Cette chose, c'est pas...
Qu'est-ce que vous appelez la forme d'un discours ? Chez Lacan, on a une écriture des discours.
C'est ça.
Et qui nous indique que c'est une chaîne signifiante, toujours, qui ordonne les contenus que vous appelez positifs, les normes positives, qu'on pourrait aussi bien appeler négatives. Si on voulait, c'est pas difficile de montrer que les normes sont aussi négatives. Mais donc, est-ce que vous avez, quand vous dites la forme du discours, quelle est votre idée ? Vous dites autoréférencié, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Ça veut dire une chaise et une chaise.
En fait, quand vous disiez forme d'un discours, je voulais dire la manière dont une époque, en fait, et dont un discours s'empare d'un rapport à au langage, en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'époque fait du rapport entre le langage et ce dont le langage parle. Et quand je dis autoréférencé, je veux dire que, par exemple, le discours des institutions, notamment celui de l'école, est un discours qui est complètement... qui n'a plus de référent. C'est-à-dire qui ne parle plus du réel, mais qui s'auto-alimente. Et dans lequel les sujets n'ont plus leur place. Ils n'ont plus leur place, même pas pour y être aliénés, mais n'ont plus leur place parce qu'en fait, c'est un discours qui les explique totalement, c'est-à-dire qu'ils ne parlent plus d'eux. Et quand je disais normes positives, c'est simplement pour dire normes existantes.
Mais
quand j'ai parlé de peut-être de forclusion de l'enfance, c'est bien du sujet dont je parlais. C'est-à-dire, il y a quelque chose du sujet, en effet, alors je ne sais pas si c'est ça que vous appelez la forme, mais d'aller jusqu'à dire la forclusion, il y a effectivement une négation, c'est-à-dire de ne pas vouloir voir qu'il y a un sujet, enfin un sujet qui parle et qui a quelque chose à dire et qui a des réactions. Ce qui est vrai pour les enfants et aussi pour ceux qui seraient, pour les professionnels aussi, qui sont un peu dénoyautés aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire ce sont des olives sans maillot.
Oui, moi c'est plutôt pour insister sur la question de Lucille. Je voudrais vous demander, parce que c'est pas, il y a longtemps que je n'ai pas lu ça, la question de différence sur moi, bon, pris par Lacan. C'est-à-dire, vous avez ça chez Freud, hein, vous l'avez chez Kierkegaard, celui qui à 20 ans n'a pas entendu la voix qui dit jouit, hein. Je ne sais plus la formule, mais éteint-lui, quoi. Hein. Et donc, vous avez depuis longtemps, dans la culture, ce surmoi qui est interdit, qui est quand même le plus banal, et puis ce surmoi qui dit jouit. Alors évidemment, on va dire qu'à notre époque, il dit plutôt jouit qu'interdit en apparence. Hein. Donc, je voulais un peu, peut-être renforcer un peu la question de Lucie en insistant sur ces points des surmoi où je ne suis pas tout à fait... malheureusement capable de répondre à ça.
Juste par rapport à mon expérience dans le travail institutionnel, j'aurais l'idée, dans ce que vous dites, Françoise, qu'il y avait plutôt quelque chose d'assez surmoïque dans les écoles. Il y avait des interdits, effectivement. Là, c'est plus ça. Enfin, je ne peux pas encore bien le saisir. Mais ça irait effectivement du côté de quelque chose qui est un peu sans loi, enfin quelque chose qui est très... c'est pas une interdiction, c'est autre chose. Hein, c'est pas... c'est pas la grosse voix qui dit ça suffit. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui touche au sujet, à l'être, enfin, de l'enfance. Voilà, quelque chose là qui vient... Je ne peux pas aller plus loin, mais ça pourrait me donner une idée pour un peu traiter ça.
Oui, je voulais juste rebondir un petit peu sur la question de Lucille aussi, en sens où je crois qu'il y a juste une question de vocabulaire entre la psychanalyse et la philosophie, et qu'elle est intéressante potentiellement à entendre cette question, dans le sens où il me semble que c'est déjà quelque chose qu'on fait de corréler les différents discours du maître, universitaire, hystérique, etc. Je pense que c'est ça, je sais pas où t'es Lucille. D'un côté, corréler, je crois que c'est ça que t'appelles les formes du discours, et ce qu'elles induisent ensuite de contenu positif, qu'on pourrait peut-être ce soir rapprocher des symptômes tels qu'ils ont été décrits notamment par Nadine, avec des différences. C'est-à-dire, on pourrait relier ces trois termes-là, époque, discours et symptômes. Et réentendre une question comme ça.
Au fond, j'ai l'impression que peut-être un des seuls points sur lesquels tout le monde a l'air de converger, c'est qu'on est dans une époque où il y a une élision de la notion de sujet partout, c'est pas seulement l'école, de plus en plus on est des individus
des individus placés, identifiables, repérables, etc. Mais la notion de sujet et de subjectivité n'est pas dans le là du discours actuellement, du discours du capitalisme. Et évidemment, ça entre en collision avec d'autres usages du terme sujet. Et quand on est dans un cénacle qui connaît à la psychanalyse, c'est très difficile d'expliquer ce qu'on appelle le sujet. Alors, c'est ça le point peut-être qui fait que. Je ne sais pas si c'est ce que vous appelez la forme du discours, mais en tout cas, ce point-là me paraît tout à fait assuré. Il faudrait faire le recensement, en effet, tous les termes qui se sont substitués. Partout où on pouvait dire sujet, on emploie d'autres termes. En même temps, le sujet jeté par la porte, revient par la fenêtre, on appelle, je ne sais pas, parce que en même temps, il y a une telle valorisation des performances personnelles et des talents personnels et de ceux qui arrivent à sortir de la particularité qui pousse à peu près dans l'eau, dans la troupe, que par là, il revient quelque chose de la désubjectivité, mais sous une forme extrêmement déformée et qui ne vient pas de la psychanalyse. On ne vient pas traiter ses succès dans la psychanalyse. On vient traiter justement ce qui ne va pas. Donc, il me semble que là, il y a un point où on est tous d'accord et on ne sait pas trop bien quoi faire avec ça.
Oui, si je peux ajouter quelque chose, c'est. Bon, je ne pense pas qu'il faille avoir une vision trop catastrophique de la chose, puisque. Lacan, quand il dit qu'il a fallu qu'il y ait Marx puis Freud pour qu'un certain nombre de faits soient considérés comme des symptômes, mais ça donne l'idée que déjà avant Marx, on pouvait considérer la société comme un monde sans symptômes. Il a fallu qu'il y ait Marx pour pointer qu'il y avait l'existence du symptôme, et puis Freud qui a introduit la question du symptôme. Donc il y a eu une homogénéisation de la société à l'époque aussi. Donc finalement, chaque époque fabrique une pente à l'égalisation. Donc je ne pense pas qu'il faille mettre trop, voir la chose trop dramatique du côté du capitalisme.
Et c'est ça que tu avais dit, l'histoire capitaliste, c'est auto-référent.
Il
n'y a besoin de personne.
On marche très fort. Bon, c'est pour une question qui est un peu en décalage temporellement, je dirais.
Ah oui, oui.
Pour rebondir sur ce que disait Patrick. On a beaucoup parlé du symptôme, est-ce que ça aurait été plus pertinent de parler du chanteur ? C'est par rapport à un terme qui a été utilisé.
Il a dormi jusqu'ici, il est
en réponse. Donc, accommodation, mais du coup, j'ai plutôt entendu. C'est intéressant, en tout cas, de tirer plutôt du côté optique, hein, plutôt que du sujet qui s'accroche. Mais du côté optique, à savoir que le fantasme comme mode d'accommodation du désir et de la jouissance. Et c'est dans le moment où le sujet ne peut plus accommoder, où il bilouche, il va se précipiter chez l'analyste. Hein, bien la féminine. Et ce qui peut se faire le lien avec notre discussion là sur les discours, c'est le fait que les discours ont toujours été faits, quelle que soit l'époque, pour venir réguler la jouissance. Et donc, venir poser un cas au sujet. Sauf qu'à l'heure actuelle, effectivement, ce discours le pousse à la jouissance, qui est avant tout un surmoi, pour répondre un peu, pour être ensemble, François, un surmoi de jouir. a pour effet, effectivement, de contraindre complètement le sujet du côté de la frustration, du côté de l'impossible. De l'impossible. Donc, une accommodation impossible entre désir et jouissance. C'est un peu confus, mais il me semble qu'il y a un lien entre la question de Patrick et le débat qui a.
Bon, merci beaucoup. Merci à la prochaine.